Tant pis pour Suzy. Donc, mais ils ont fait pénitence. Et Dieu est heureux qu'ils aient fait pénitence. Ça lui évite d'envoyer des armées, massacrer toute la ville, et donc aussi les enfants. Il y a plus de 120 000 hommes qui ne distinguent pas leur droite de leur gauche. Le livre se termine sur cette question. Les habitants de Ninive valent beaucoup plus que la plante de Jonas. Jonas n'aurait pas dû s'irriter quand Dieu décida d'être miséricordieux. Le livre de Jonas décrit les épreuves d'un prophète. Il dut renoncer à ses désirs et aller là où Dieu l'envoyait. Et voilà ce livre de Jonas. Et Jésus salue Jonas. Alors nous poursuivons. Chronologiquement, d'ailleurs, Jonas vient avant le livre de... Enfin, le, au même moment que les rois. Hein. Et donc, Élie et Jézabel. Mais ça, je crois que je vous ai décrit à force théâtre, acte... comment dire... la manière dont Élie fait mourir les prophètes de Baal. Et je vous ai dit qu'il part au Sinaï et qu'il voit Dieu de dos. De dos. C'est impressionnant. Et c'est beau de voir la manière dont Dieu parle à Élie. Que fais-tu, Élie ? Comme il parle à Jonas. N'oubliez pas que Dieu ne change pas. Dieu a toujours été amour. Dieu était toujours amour. Celui qui a retenu l'arche d'alliance qui manquait de tomber, il est mort sur le coup. Oui, mais c'est pas que Dieu en avait contre lui, mais c'était pour que les hommes mauvais, méchants, teigneux aient peur de lui. Et puissent se convertir parce que la peur, la crainte, c'est le début de la sagesse. Vous voyez, le bonhomme fanfaron qui dit « Mais j'ai pas peur de Dieu, je fais ce que je veux, je peux être injuste, faire souffrir les autres. » Et Dieu lui dit « Je vais t'exploser, je vais te mettre en enfer, tu vas être brûlé vif pour l'éternité. » Et s'il en est persuadé, à un moment donné, il a peur. Et cette peur, ou elle est servile et ne sert à rien, et il reste dans la haine, ou ça le... Mais alors pourquoi Dieu est si sévère? Parce que je fais le mal. Donc qu'est-ce que veut Dieu? Me faire peur ou que je fasse le bien? Et il va finir par se dire, mais parce que Dieu veut que j'aime, en fait. S'il est si sévère, c'est parce qu'il veut que j'aime. Quand une institutrice me met 0, moins 2, moins 5, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois sur mes dictées dans les années 30, c'est parce qu'elle veut que je connaisse l'orthographe et que je puisse rédiger des lettres quand j'aurai 16 ans, quand j'aurai 20 ans. C'est pas parce qu'elle m'aime pas qu'elle me donne de mauvaises notes. C'est parce qu'elle veut me faire peur en disant « Tu vas redoubler, tu vas pas avoir ton diplôme, gna 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 » pour que je l'aie. Bien sûr, il y a des institutrices sadiques mais les bonnes institutrices mettent des mauvaises notes pour piquer leurs élèves et pour qu'ils s'élèvent. C'est ça, l'Ancien Testament. Alors, Élisée, ça je vous en ai parlé je crois, récupère les grâces d'Élie, tout content. Et ne voilà-t-il pas que dans la Transfiguration, Jésus va sur le mont Tabor, il prend Pierre, Jacques et Jean, et tout d'un coup, il fait rejaillir sur son corps la vision béatifique de son âme humaine, qui est plongée dans la nature divine, n'est-ce pas? Donc c'est une lumière spirituelle extraordinaire. Même les Juifs n'arrivaient pas à regarder Moïse en face alors qu'ils voyaient une lumière au-dessus de l'Arche d'Alliance qui était une pâle figure sans doute de la Transfiguration. Quand les enfants de Fatima regardent Marie, ils sont... Quand Bernadette regarde Marie à Lourdes, vous avez, elle a un cierge comme ça. Le cierge, il fond. Il arrive sur son doigt et vous avez la lame qui lèche le doigt. Le miracle, il y en a deux. Vous voyez, le miracle, c'est que elle est pas mal, mais surtout que la peau brûle pas. Vous voyez, Et c'est impressionnant. Et on est dans les années 1830, 1854. 1854, Lourdes. Hein, on n'est pas... Vous voyez, les miracles... Oh, vous avez un martyr. Les Hébreux dans la fournaise. Oh, bien sûr, c'est une légende, nous disent les exégètes modernes. Ils étaient au milieu d'un feu énorme. Qu'est-ce qui se passe? On n'y est pas encore, mais on va y aller, justement. Vous avez Daniel, le prophète Daniel, qui est jeté dans une fournaise. Ils ont mis des pièces de bois, des rondins. Ils ont fait un bûcher énorme. Ils en ont mis 7 fois plus que d'habitude, nous dit la Sainte Écriture. C'est énorme. Ceux qui ont jeté les 4 enfants hébreux parce qu'ils avaient prié leur Dieu au lieu de prier la statue de l'empereur meurent, brûlés vifs, en s'approchant du feu et en jetant les enfants. Tellement le feu est intense, ils sont là, ils arrivent, et le feu est tellement intense, ils sont cramés. Et eux, ils sont jetés au milieu du feu, ils sont au milieu des rondins, et puis à un moment donné, le bon Dieu, il fait une boule d'air frais, de rosée fraîche, et ils sont en train de prier. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, béni soit le Dieu, Seigneur, le Dieu d'Israël. Et au milieu des 4 enfants, il y a un ange qui est 3 fois plus grand qu'eux et qui prie avec eux. Et vous avez le roi des Assyriens qui dit, mais c'est quoi ça? Mais alors leur Dieu est bien plus puissant que les nôtres. Ouais. Eh bien, voyez-vous, on dit c'est une légende. Ah bon? Et alors la flamme qui lèche le doigt de Bernadette avec la centaine de témoins autour, c'est une légende aussi? Ah oui, mais non, en fait, c'était une magicienne où elle avait mis de la graisse et tout. Arrêtons, à un moment donné. Mais elle était en extase, justement. Mais d'où venait son extase? Mais parce que le corps de Marie, il y avait l'âme de Marie qui est dans la vision béatifique, ça redonde sur son corps, et de voir le corps de Marie, suspendait l'activité corporelle de Bernadette. Son âme était comme aspirée. Je crois que c'est Sainte Thérèse d'Avila qui a vu une âme en état de grâce pendant quelques secondes. Le Dieu lui dit, tu veux voir une âme en état de grâce? Une âme en état de grâce. Donc, elle a regardé une personne. C'était une de ses sœurs, je crois, je ne sais plus. Une carmélite. Et il y avait comme un soleil à l'intérieur de son cœur. Elle n'était pas dans la vision béatifique. C'est-à-dire que Dieu, dans la présence baptismale fructueuse, l'état de grâce, c'est une présence authentique en nous. Vous voyez, quand vous ne vous rendez pas compte, quand vous confessez, que vous sortez du confessionnal, que vous dites, en général, on se dit, oh, c'est toujours les péchés graves, c'est les péchés d'impureté, le machin et tout ça. Ah bon, vos méchancetés, vos isanies, vos refus de pardon dans une famille, je peux vous assurer que ça peut vous faire perdre vraiment la grâce. Et bien là, vous dites, voilà, ça fait 5 ans que j'arrive pas à parler à ma sœur, je voudrais me réconcilier, tout ça. Est-ce que vous prenez la résolution de lui envoyer vos vœux? Ah oui, mais elle va pas me croire, elle va croire que c'est une insulte. Dites-lui que vous l'aimez, en 3 lignes. Oh. Avec tout ce qu'elle m'a fait, elle a pris toute la part d'héritage et tout. Eh bien, voyez-vous, une âme en état de grâce, Sainte Thérèse d'Avila, a cru mourir de joie. Elle a senti son âme sortir, en quelque sorte, de son corps et mourir. Son âme serait se retrouvée en dehors de son corps, le corps de Sainte Thérèse, il tombait par terre. Et quand vous avez le Padre Pio, dont le corps a été exposé pendant 5 jours au Vatican, les joues, souples, le visage endormi, les yeux même pas caves, Ça, je peux vous assurer que j'aimerais quand même entendre tous les médecins de savoir comment un corps non embaumé et dans l'humidité peut ne pas se décomposer. Et le visage de Padre Pio est impressionnant. Fatalement, il ne nous impressionne pas, on a l'impression qu'il dort. Seulement, il est mort depuis 50 ans. Donc, 48 ans. Eh bien, voyez-vous, tous ces miracles, il faut bien y penser. Même si nous, on est malade, même si on est au chômage, si on fait pas ci, on fait pas ça, l'important, c'est de ne pas être dans la malice et la haine. C'est ça, notre bonheur. Eh bien, là, voyez-vous, tous ces miracles prophétiques sont là pour soutenir la foi du peuple juif et la nôtre. Si saint Paul nous dit que les juifs pieux seront à la fin des temps face à l'antéchrist, reconnaîtront que Jésus est leur Messie et leur Dieu, c'est parce que justement tous ces juifs pieux ont été nourris de la piété de tous ces siècles, de toutes les révélations de la loi et des prophètes. C'est comme ça qu'ils gardent la foi au milieu de ce monde de dingue. Mais nous devons, bien sûr, leur prêcher que ce qu'ils attendent est là. Alors, vous avez ces deux royaumes qui sont séparés, et vous avez Dieu qui, quand même, punit le royaume d'Israël en faisant arriver les armées de Ninive, les armées assyriennes, qui dévastent Israël. Très impressionnant. Ils sont punis, souvent punis. Et au point que les prophètes annoncent qu'ils vont être complètement dévastés et que Dieu ne va pas tolérer que le royaume d'Israël, le royaume du Nord, par rapport au royaume du Sud, le royaume de Juda, persiste. Donc l'armée assyrienne va arriver et ça en sera fini du schisme par conquête assyrienne. Et du coup, toute une partie des Juifs seront transportés en exil, et c'est le premier exil. Il va y avoir le deuxième exil, ceux du royaume de Juda, qui étaient restés fidèles, eux, à la religion. Et donc, toute une partie du royaume du Nord va partir dans ces terres lointaines, et parmi les prophètes de ces temps, vous avez le prophète Isaïe, le prophète Jérémie et le prophète Daniel, qui sont les prophètes de l'exil. Alors, non seulement tout le royaume du Nord est dévasté, mais le royaume de Juda, lui, les rois de Juda, ils sont tentés parfois par les religions à mystère. Ils vont faire construire des autels païens. N'oubliez pas que Salomon lui-même avait fait construire des temples païens pour faire plaisir à ses femmes de second rang, à ses concubines. Et donc, il va y avoir de véritables idolâtries par les rois de Juda. Les Babyloniens commencent à attaquer, détruisent Ninive et les Assyriens. Vous allez me dire, mais alors Jonas, il avait dit que... Ah oui, mais après ils sont retombés dans le péché, hein, et 150 ans plus tard, il ne reste rien de Ninive, ou presque rien. Hein. Donc ils ont fini par pécher. Et donc les Babyloniens arrivent, et ce sont les Perses et les Mèdes qui vont conquérir et ils vont menacer le royaume de Juda. Et comme les rois de Juda, il y en a un qui était un saint, un autre qui était une crapule finie, un autre qui était un saint, un autre qui était un idolâtre fini, les prophètes, à chaque fois, ils arrivaient et disent « Oh, vous allez être punis !» Et quand il y avait un bon roi, « Oh, vous allez être béni !» Oh, vous allez être puni. Oh, vous allez être béni. Bah, oui, quoi. Et il y a Isaïe, le grand prophète Isaïe, qui est une belle figure. Il fut envoyé pour appeler le royaume de Juda à se repentir, et il annonce l'exil de Jérusalem, du royaume resté fidèle au temple de Jérusalem et à l'arche d'alliance. On dit, ah ben non ! Dans le nord, ils ont mérité d'être massacrés par les Ninivites et les Assyriens, mais nous, vous en cachette, vous faites de l'idolâtrie, vous tuez vos enfants comme les païens. Ah ben non, ah ben si, ah ben non, mais si, non. Isaïe, chapitre 1, versets 18 à 20. Parole du Seigneur. Venez, et discutons ensemble. Je vous demande, il leur demande de se convertir, et ça c'est une des paroles justement d'exhortation, comme Jonas. Et ça c'est très souvent dans le carême. Venez, discutons ensemble. Si vos péchés sont comme l'écarlate, rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous obéissez de bon cœur, vous mangerez les biens de votre pays. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelles, vous serez mangés par l'épée. Car la bouche du Seigneur a parlé. Vous voyez, c'est... voilà. Mais ne croyez pas que dans le Nouveau Testament, ça soit différent. Les guerres que nous avons eues en Occident, les différentes maladies qu'il y a eues, les épidémies et autres, sont aussi pour nous pousser à la conversion. Mais Isaïe ne fut pas uniquement un prophète de malheur. Alors que tout semblait sans issue, Isaïe entrevoyait un temps où Jérusalem sera la capitale de Juda et le centre spirituel du monde. Donc ça, ce sont les prophéties messianiques. Et donc les juifs pieux, ils écoutent Isaïe, ils se disent « Mais il nous promet des choses extraordinaires. » Eh bien, voyez-vous, les protestants, eux, vont prendre de la Bible tout ce qui est promesse. Si on est juste, on est béni par Dieu. Mais Dieu veut aussi présenter la croix à des innocents et à des justes pour qu'ils complètent la passion de Jésus, l'agneau de Dieu innocent. Donc, dans le Nouveau Testament, le fait d'être pauvre, malade et persécuté, diffamé, en prison, n'est pas un signe de punition divine, mais un signe de conformité à la passion du Christ. Et donc, qu'on soit en bonne santé et prospère, ou malade et pauvre, un chrétien est heureux. Or, les protestants ont pris le mauvais pli des juifs qui interprétaient la parole des prophètes comme « si on se comporte bien, on sera riche et en bonne santé, si on pêche, on sera puni ». Mais ce n'est pas que ça. Vous voyez ? Enfin, et c'est la raison pour laquelle Isaïe va dire, chapitre 2, versets 2 à 3, « Il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de Yahvé, le mont Sion, sera établie au sommet des montagnes et élevée au-dessus des collines, de tous les petits temples, de tous les païens, et tout ça. Et vers elle, toutes les nations afflueront, et des nations nombreuses viendront et diront, « Venez et montons à la montagne de Yahvé, à la maison du Dieu de Jacob. Il vous instruira de ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. » Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de Yahvé. Eh bien, voyez-vous, quand vous allez à Jérusalem, quand vous allez à Rome et que vous voyez tous ces peuples de tous les continents, la prophétie d'Isaïe est accomplie. Alors, vous avez encore des gens qui veulent interpréter cette prophétie comme un pouvoir temporel. Des sionistes. Les sionistes, guerriers et temporels, ne comprennent pas qu'il n'y aura de paix que s'ils sont spirituels. et qu'ils prennent, et qu'ils, s'ils prennent les prophéties non pas comme le fait d'aller à Jérusalem comme une capitale du monde, mais de Jérusalem comme une capitale spirituelle. Et donc ceux qui veulent faire la guerre, ceux qui veulent détruire la mosquée d'Al-Aqsa, qui est construite au-dessus du rocher d'Abraham, où était l'autel des sacrifices du temple de Jérusalem, eh bien ils vont créer une guerre épouvantable avec les musulmans. Tout ça pourquoi? Et c'est ça qui est un peu dommage, et c'est la raison pour laquelle les protestants sont extrêmement sionistes. Pourquoi? Eux sont millénaristes, ils pensent que Jésus va venir pendant 1000 ans et qu'on va tous avoir un iPhone, un iPad et la 5G Wi-Fi max pendant 1000 ans. C'est le bonheur, hein. Et que pour tout ça, il faut les signes apocalyptiques. Et parmi ces signes apocalyptiques, que le peuple juif devienne chrétien et soit baptisé. D'où tout faire pour que le peuple juif soit tous concentrés en Palestine, qu'on les laisse tranquilles, quitte à taper sur les peuples arabes et musulmans bien lourds, et dire aux juifs, alors maintenant vous acceptez le Jésus, le Messie, et on va avoir 1000 ans de prospérité. Ce à quoi l'Église, dans le catéchisme de l'Église catholique, répond. Pour ceux qui pensent que Jésus va venir et qu'on va avoir une vie terrestre merveilleuse, il n'y aura plus de malades, il n'y aura plus de guerre, on sera tous ensemble, la main dans la main, youpi, et l'ONU sera le grand pays des bisounours. Voilà. Et donc, avant l'avènement du Christ, donc les protestants américains, ils sont là, oui, le Christ va venir, il va y avoir 1000 ans de prospérité. Mais oui, mais Adolf Hitler aussi voulait un Reich de 1000 ans, parce que lui-même avait des notions chrétiennes, mais méchamment éloignées. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale, qui ébranlera la foi de nombreux croyants. Numéro 675 du catéchisme de l'Église catholique. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité dont parle saint Paul, sous la forme d'une imposture religieuse. Donc ça veut dire que ça sera un gouvernement mondial fondé sur la religion des droits de l'homme et de l'amour. Avortement, euthanasie, et liberté sexuelle. Youpi. Voilà. Tous tranquilles, pas trop d'enfants parce que ça coûte cher, pas trop de vieux parce que ça coûte cher, pas trop d'handicapés parce que ça coûte cher. Le bonheur, quoi. Une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Numéro 676 du catéchisme de l'Église catholique de 92. Cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance messianique qui ne peut s'achever qu'au-delà d'elle, à travers le jugement eschatologique, la fin des temps. C'est hors de l'histoire, ça ne sera pas la vie terrestre. Chers Américains, non. Même sous sa forme mitigée, l'Église a rejeté comme cette falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme, surtout sous la forme politique d'un messianisme sécularisé, intrinsèquement perverse. Numéro 677. L'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. On va tous être persécutés, les catholiques, hein ? Oh ! Le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église. Oh mince ! Selon un progrès ascendant. Oh mince ! Tous les pays ne vont pas devenir catholiques ? Tous les Chinois ne vont pas devenir catholiques ? Ben non. Enfin, attention, hein, à la fin des temps, il y aura beaucoup de prédications. Il y aura Élie, Enoch, il y aura des miracles. Un certain nombre de personnes se convertiront. Hein. Le bon Dieu prendra sa part. Le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église, selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal qui fera descendre du ciel son épouse, la Jérusalem céleste, la vie éternelle, la vision béatifique. Le triomphe du Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier, après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe. Et c'est quoi l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe? C'est le feu. Toute la surface de la Terre sera brûlée. Alors que ce soit par un miracle divin ou par un feu nucléaire généralisé, il n'y aura pas de survivants dans des bunkers à 100 mètres sous le sol ou à 3 km sous le sol. Ça sera un feu divin, c'est-à-dire que tout le monde mourra. Saint Paul le dit, Saint Pierre le dit, le prophète Sophonie le dit, notre Seigneur le dit, tout le monde le dit, c'est plié. Bon, d'ici 2 ans, d'ici 25 ans, d'ici 50 ans, d'ici 75 ans, mais si c'est d'ici 75 ans, on ne sera plus là pour le voir, mais on le vivra en âme. Moi au purgatoire, en train de gueuler comme un âne, Jésus dit, alors c'est quand la vision béatifique? Il dit, pas maintenant, tu vois, c'était trop dur, trop violent, là. Réfléchis encore un peu. Voilà. Mais bon, même du purgatoire, ça sera toujours intéressant de voir la fin des temps. Hein. Bon. Mais j'aurai un supplément de purgatoire par curiosité malsaine. T'aimes trop, toi, t'attends trop la fin des temps. Eh ben, rien qu'à cause de toi, je l'ai retardé. Tiens, voilà, pour que tu la vois pas. Oh, la vache. Ah si, pour, ben oui, mais il y a pas de fenêtre. Hein. C'est la vision des anges. On voit sans yeux. N'est-ce pas? Donc les esprits, ils voient tout. Mais ils ne voient pas, par contre, ils ne savent pas ce qui se passe dans une âme. Ce qui est pensé, il ne peut pas le connaître, sauf par Dieu. La transmission de pensée entre esprit, entre ange ou entre âme, se fait par un acte de volonté. Sinon, c'est un sanctuaire que personne ne peut pénétrer sauf Dieu. La Vierge Marie, notre ange gardien des saints, ne peuvent savoir ce que l'on pense que par Dieu. Les démons, par exemple, ne peuvent pas savoir ce qu'on pense, sauf si on le dit.
Oui. La Vierge ?
À la Vierge que par Dieu. Elle n'est pas divine, elle ne peut pas rentrer dans une âme. Il n'y a que Dieu qui lui permet de rentrer dans une âme. Et c'est une femme, hein, c'est une créature. Et même un ange ne peut pas aussi connaître. L'ange gardien, il ne peut pas savoir ce qu'on pense. Il n'y a que par Dieu qui le sait. Mais Dieu peut lui donner porte ouverte. La Vierge Marie, elle, c'est porte ouverte toute l'année. Donc, et là, comment?
Et nous, on ne peut pas donner l'autorisation à l'ange gardien de savoir ce qu'on pense?
Ah ben bien sûr, si. Et puis on peut lui exprimer. Oui, parce qu'on lui exprime. Par exemple, quand vous priez, votre ange gardien, il vous entend. Donc si vous lui dites tout ce que vous pensez, il n'a pas besoin de passer par le bon Dieu. Oh mon Dieu, qu'est-ce que diraient les exégètes ou les théologiens si je vous dis de tout ce que je vous dis en science des esprits? Ben, qu'ils lisent les pères de l'Église, qu'ils lisent la Bible, parce que combien de communications d'âme à âme, d'homme à âme, d'homme à ange il y a dans la Sainte Écriture. Enfin, quand vous avez mais lisez la vie du Padre Pio, il parlait aux anges comme je vous parle. Il y a quand même quelque chose. Et donc je vais terminer par les magnifiques prophéties d'Isaïe. Je m'arrêterai et vous me ferez penser, la prochaine fois, ça sera Jérémie. Jérémie, c'est très bon pour la semaine sainte. C'est les Jérémiades, c'est « Oh, tout est foutu, on va tous crever, on a tellement péché qu'on s'en sortira jamais. » Ça, c'est Jérémie. Mais Isaïe, lui, c'est « On va vous casser la gueule, vous, parce que vous avez péché, mais il va y avoir un sauveur, mais ça va y avoir, mais. » Isaïe chapitre 11, 1 à 2, 10 à 11. Un rameau sortira du tronc de Jessé. Vous vous rendez compte, Isaïe, il vit environ... Isaïe, on le date d'environ 700 ans avant Jésus-Christ. Hein. Oh, sauf les exégètes modernes qui disent qu'il n'a même pas existé. Hein. Il y en a eu 3, 4, 5. Voilà. Non, Isaïe, donc, il est juste avant la punition. Les Babyloniens prennent le royaume de Juda en 587. De 587 à 538, les Babyloniens arrivent et détruisent Jérusalem. Mais donc, Isaïe se place avant. Et Isaïe dit, donc, 400 ans après David, et le papa de David, c'est qui? C'est Jessé. Un rameau sortira du tronc de Jessé. C'est gentil pour la famille de Juda. Ils ont péché, ils ont fait un peu n'importe quoi, tout ça. Mais non, cette famille-là continuera. Et ses racines, et de ses racines croîtra un rejeton. Sur lui reposera l'esprit de Yahvé, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahvé. Et vous avez l'arbre de Jessé dans les églises, dans les cathédrales. Vous avez le papa de David, vous avez David, vous avez Salomon, et puis vous avez Jésus. Et là, vous avez tous les rois, il y a des crapules, les machins, tout ça. Et les prophètes sont tout autour en général. Il arrivera en ce jour-là la racine de Jessé. Vous vous rendez compte un peu, 400 ans après David, la Sainte Trinité, Dieu, le Père, Fils, Saint-Esprit, dit « Non, les promesses que j'ai faites à David, à Salomon, je vais les accomplir. » « Oui, mais entre-temps, il y a eu des guerres, il y a eu des machins, il y a eu tout ça. » « Non, vous verrez. » 1000 ans plus tard, il va accomplir cette prophétie. Et pour Isaïe, 700 ans plus tard, 600 ans avant, il dit « Si, ça sera un descendant de David. » Et vous avez Joseph qui est là et qui accomplit cette prophétie avec Marie qui est à la fois de tribu lévitique et de Juda. Il arrivera en ce jour-là, la racine de Jessé élevée comme un étendard pour les peuples, sera recherchée par les nations et son séjour sera glorieux. Voilà. Vous vous rendez compte, toutes ces personnes de tous les pays qui sont juifs de religion, nous sommes juifs. Saint Paul dit le véritable Israël, c'est... ce sont les chrétiens. Ça vexe un peu les juifs, mais vous inquiétez pas, à la fin des temps, quand les juifs pieux clôtureront la procession, ils seront tout contents. Et saint Paul dit, leur jalousie a provoqué une lumière pour toutes les autres nations. Quand les juifs deviendront chrétiens, qu'est-ce que ça sera? Parce que pour le monde entier, imaginez les juifs qui sont en Terre Sainte actuellement en Israël qui disent « Ce bonhomme-là, président de l'ONU, dans le temple reconstruit, après cette guerre épouvantable, et qui est proclamé Messie, eh bien c'est pas notre Messie. Nous, notre Messie, c'était Jésus. Et la tête des Thaïlandais, la tête des Japonais, la tête des Brésiliens, la tête des Africains, la tête... Vous, qu'est-ce que vous dites là? Nous, Juifs pieux, c'est pas notre Messie, c'est l'Antéchrist. Et notre Messie, c'était Jésus-Christ. La bombe spirituelle que ça va représenter. Ah, j'aimerais être là quand même. Bon. Il arrivera en ce jour-là, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, ce qui subsistera au pays d'Assyrie et d'Égypte, de Patros, d'Éthiopie, des lames de Sénar, de Hamath et des îles de la mer. C'était déjà la diaspora de l'époque. Beaucoup de juifs étaient répandus. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans un sens spirituel? Mais tous ceux qui croient en Dieu seront rassemblés. Isaïe, chapitre 9, 1, 3, 8. Mais il n'y a plus de ténèbres pour la terre qui a été dans l'angoisse. C'est le premier temps, comme le premier temps a couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Le dernier temps remplira de gloire le chemin de la mer, le pays d'au-delà du Jourdain et le district des nations. Jésus va aller dans la tribu de Zabulon, dans la tribu de Nephtali, au-delà du Jourdain. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, la lumière a resplendi. Il est allé en Samarie pour les païens. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, l'empire a été posé sur ses épaules, la croix. Et on lui donne pour nom conseiller admirable, Dieu fort, Père éternel, prince de la paix. Isaïe, c'est environ 600 ans avant Jésus-Christ, il est en train de dire que le Messie, un de ses surnoms, c'est Dieu fort. Mais ça devrait faire réfléchir les rabbins pieux. Si Isaïe il dit que le Messie, il sera Dieu, 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 Dieu. Alors peut-être que Jésus est notre Messie. Je ne sais pas comment il lit chapitre 9 d'Isaïe. Et pour terminer, chapitre 7, 10 à 16. Alors, c'est Achaz qui était une crapule finie, qui était un roi de Jérusalem. Et Isaïe arrive et lui dit, les habitants de Juda n'étaient pas surpris d'entendre Isaïe appeler les Galiléens un peuple qui marchait dans les ténèbres. C'était les Samaritains, ceux du Nord. Mais ils ont probablement douté que les Galiléens verraient un jour une grande lumière, que la Galilée acquerrait la gloire. Ils sont devenus samaritains, ils sont pourris, ils sont la Galilée des nations. Ils sont mélangés avec tous ces peuples babyloniens, assyriens. Les Galiléens étaient des pauvres fermiers. C'était donc une des prophéties d'Isaïe les plus impressionnantes. Pendant le règne d'Akaz, le roi païen impie qui faisait des sacrifices et tout ça, qui était... Les Assyriens attaquèrent Jérusalem avant d'être attaqués par les Babyloniens. Les Assyriens sont allés jusqu'à Jérusalem. Et il semblait que c'était la fin de Juda. Isaïe est allé voir Achaz et lui a dit « T'as vraiment de la chance, espèce de grosse crapule. Dieu va à nouveau sauver Jérusalem et va empêcher les Assyriens de t'attaquer. » « Ah bon ? Oh, mais, oh, je, ah oui, je n'ai pas demandé, oui, c'est gentil de la part de Dieu. » Et là, Isaïe lui dit Tu veux que ce que je t'annonce soit confirmé par un miracle ? Demande-moi un miracle. » Et là, Achaz, alors, pas à ma façon, mais à la façon du bon Dieu. Chapitre 7. Demande un signe à Yahvé, ton Dieu. Demande-le dans les profondeurs du Shéol. C'est quoi le Shéol ? C'est le limbe des patriarches. C'est là où se trouvent Abraham et compagnie. Ou dans les hauteurs du ciel. Mais Achaz dit « Oh, je ne le demanderai pas, je ne tenterai pas, Yahvé. Je ne le mettrai pas à l'épreuve, je le crois sur parole. » Et Isaïe dit « Ah, ça c'est très beau, un prophète de l'Ancien Testament qui s'énerve. Écoutez, maison de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes ? Que vous fatiguiez aussi mon Dieu. Hein? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici qu'une vierge a conçu et elle enfante un fils. Et on lui donne le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. » L'âge de maturité, mais qui... C'est pas que Jésus, dans son âme humaine, peut être tenté, mais il ne peut pas pécher. Enfin, car avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays que tu redoutes, dont tu redoutes les deux rois, sera dévasté. Il est en train de lui dire que le Messie va venir, qu'il va naître d'une vierge, qu'on va lui donner le nom d'Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Et qu'avant que ça se réalise, c'est-à-dire dans 600 ans, le roi d'Assyrie et le roi de Babylonie, pour l'instant, ne pourront rien faire contre toi. » Ça lui fait une belle jambe à Akaz. Mais pour nous, lorsque on découvre le cylindre du roi assyrien Sennacherib, se vante d'avoir capturé 40 civils d'Ézéchias et d'avoir assiégé Jérusalem, enfermant Ézéchias dans sa capitale comme un oiseau en cage. Ézéchias avait préparé Jérusalem à subir un long siège en creusant dans le roc un tunnel souterrain de 500 mètres pour porter l'eau de la source de Gihon jusqu'à la ville. Ézéchias implora l'aide de Dieu et Dieu répondit. Qu'est-ce qui s'est passé 700 ans avant Jésus-Christ? Et je m'arrêterai vraiment là. La prochaine fois, ça sera Jérémie. Et ça, c'est un des épisodes, vous ne vous étonnerez pas. Deuxième livre des Rois, chapitre 19, verset 34. 185 000 soldats assyriens étaient autour de Jérusalem. Ézéchias, qui n'était pas très bon, se convertit parce qu'il est entouré par 185 000 soldats et demande à Dieu pardon. Et qu'est-ce qui va se passer? Un prophète arrive, 2 livres de droit, chapitre 19, verset 34. Vite, 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 parce que là vous allez vous endormir tous. Je n'ai pas supporté ma fougue. C'est, il est passionné, mais nous on a envie de dormir. Voilà. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu ce rapport, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de Yahvé, au temple de Jérusalem. Il envoya Eliasim, chef de sa maison, Sobna le secrétaire et les anciens des prêtres, couverts de sacs, vers Isaïe, le prophète, fils d'Amos. Ils lui dirent, « Ainsi dit Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour enfanter. » La ville de Jérusalem était dans la famine, ils étaient à deux doigts de manger leurs enfants même. Peut-être Yahvé ton Dieu entendra-t-il toutes les paroles du grand échanson que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant. Et le punira-t-il à cause des paroles qu'a entendu Yahvé ton Dieu? Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Vous aviez l'échanson du roi assyrien qui s'appelait Sennacherib. On va tout détruire, Jérusalem va être détruit, votre Dieu c'est un gros nul, nos dieux sont les meilleurs et tout, il est rien du tout Yahvé, il n'a rien fait. C'était un peu vexant. Voilà. Les serviteurs du roi Ézéchias se rendirent auprès d'Isaïe et Isaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi dit Yahvé, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues, par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont outragé. Voici que je mets en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il apprendra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Le grand échanson s'en retourna et trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Lobna, car il avait appris que son maître était parti de Lachis. Le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tarassa, roi d'Éthiopie. On lui dit, voici qu'il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et il envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda. Que ton Dieu en qui tu te confies ne t'abuse point en disant « Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » Voici que tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays, les soumettant à l'anathème. Et toi, tu seras délivré? Est-ce que leurs dieux les ont délivrés, ces nations que mes pères ont détruites? Ézéchias, ayant pris la lettre de la main des messagers, la lut. Puis Ézéchias monta à la maison de Yahvé et la déboya devant Yahvé. Voilà, il dit encore que tu n'es rien du tout, tu es un dieu comme les dieux païens des autres villes que les Assyriens ont détruites. Hein? Tu ne veux pas te vexer un peu pour nous protéger? Ézéchias pria devant Yahvé en disant, Yahvé, Dieu d'Israël, assis sur les kérubims, ce sont des anges très puissants, les kérubims. C'est vous qui êtes le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, vous qui avez fait les cieux et la terre. Yahvé, inclinez votre oreille et écoutez. Yahvé, ouvrez vos yeux et regardez. Entendez les paroles de Sennacherib, qui a envoyé le grand échanson pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, Yahvé, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et dévasté leur territoire, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Car ce n'étaient pas des dieux, mais des ouvrages de main d'homme, de bois et de pierre. Ils les ont anéantis. Maintenant, Yahvé, notre Dieu, sauvez-nous de la main de Sennacherib et que tous les royaumes de la terre sachent que vous seul, Yahvé, êtes Dieu. Et Isaïe, fils d'Amos, envoya dire à Ézéchias. Ainsi dit Yahvé, Dieu d'Israël, la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennacherib, roi d'Assyrie, je l'ai entendue. Voici la parole que Yahvé a prononcée contre lui. Et donc là, il annonce la destruction du roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de flèche, il ne lui présentera point de bouclier. Et il avait laissé toute une armée autour de Jérusalem. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez? Eh bien, la nuit même de la prophétie d'Isaïe, cette nuit-là, Dieu a appelé un vieil ange, n'est-ce pas, qui, 700 ans plus tôt, vers l'année 1400, avait été utilisé, n'est-ce pas, du temps de Moïse, pour la Pâque. Il avait dit, j'ai un travail pour toi en Égypte. Et l'ange exterminateur dit, ah oui, et qui ont puni les Égyptiens. Et là, il devait se reposer depuis 700 ans, et Dieu lui demande, cette nuit-là, l'ange de Yahvé sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici que c'étaient tous des cadavres. Et Sennacherib, roi d'Assyrie, effrayé, il est là et il se promène dans le camp de son armée, ils sont tous morts dans la nuit. Alors les exégètes modernes nous disent, eh bien c'est les Juifs qui ont empoisonné l'eau des puits, hein, où ils ont l'eau de, où ils ont mis du poison dans leur nourriture, ils sont morts tous d'une gastro pendant la nuit. Non, 185 000 hommes peuvent pas mourir en une nuit. Je suis désolé. Et Sennacherib, roi d'Assyrie, n'a pas demandé son reste. C'est parce que, ayant levé son camp, partit et s'en retourna. Et il resta à Ninive. Comme il s'était prosterné dans la maison de Nesroch, son dieu, Adramélec et Sarrazar, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Aseradon, son fils, régna à sa place. Voilà. Donc, vous voyez, je ne développe pas plus. Il va y avoir Manassé, il va y avoir Josias, qui va être un saint homme, mais je pense que Josias va être contemporain de Jérémie, et il va y avoir le livre de Jérémie. Voilà, donc tout ça pour vous dire que dans l'Ancien Testament, vous avez des annonces explicites du Messie et sur des siècles. Et le miracle de l'an 700 avant Jésus-Christ, de ces 185 000 hommes qui meurent en une nuit, est un miracle qui est très, très oublié. Très, très oublié. Mais vous croyez que les Juifs l'oublient, ça? Ça ne fait pas partie de leur histoire. Ils pensent, comprenez pourquoi ils savent que Dieu est avec eux. Et donc nous, qui avons la pleine lumière sur Dieu, alors qu'eux sont dans une, comme dit saint Paul, ils ont un voile sur les yeux, puisqu'ils n'arrivent pas à voir combien Dieu nous aime par la passion de l'agneau de Dieu, que la Pâque est réalisée. Imaginez les Juifs pieux et sincères actuellement, comme ils pourraient être encore plus merveilleux s'ils le voyaient comment Dieu nous aime, puisqu'il est mort pour eux, pour nous, et qu'il a été innocent. C'est beau, c'est magnifique. Eh bien, voyez-vous, toute cette histoire sainte est capitale. Et je peux vous assurer que quand on aura vu Jérémie, tout ça, quand on va lire les psaumes, vous serez émerveillés de voir combien toute cette histoire sainte est résumée en quelques prières.